Salut Luc!
Salut Patrick!
Toi, les astéroïdes, ça te fait peur?
Non mais calvaire, une chance que ça arrive pas ces affaires-là.
Une chance, ça arrive rarement.
Oui, excuse-moi pour le calvaire.
Oui, t'es pardonné, pardon, mais pardon. À cette heure-là, les enfants sont,
bon, sont couchés
dans l'auto. OK, okay. Okay. Greta Thunberg dit que la COP26 est un échec. Es-tu d'accord avec elle?
Elle est sévère, mais tu sais, elle est jeune et elle va vivre avec les impacts des changements climatiques, du réchauffement de la planète. Elle prend ça au sérieux, elle a raison de prendre ça au sérieux. T'sais. Même s'il y a des efforts incroyables qui sont mis sur la table, mais on s'en va quand même vers une perspective de 2,7 degrés à la fin du siècle, puis peut-être 1,5, même peut-être jusqu'à 2 au milieu du siècle. Donc, à 2, je te l'avais dit une fois, à 2, là, c'est 830 millions de personnes qui sont atteintes. Là.
Oui.
Dans l'agriculture, dans les vallées qui sont les vallées basses, par exemple, en Inde et au Bangladesh, qui sont sous l'eau. Donc, c'est des effets extraordinaires. Et puis, on ne se rendra jamais là parce que, de toute manière, avant de s'y rendre, il y a tellement de chaos social qui va apparaître qu'on ne se rendra pas à ce réchauffement-là. C'est-à-dire que les effets sociaux vont arriver bien avant les effets climatiques. Un exemple d'effet social, c'est déplacement de population à cause des incendies, même des incendies en Californie récemment qui ont été jugés. Mm-hmm. Directement lié au changement climatique. Ça veut dire qu'à chaque dixième de degré de réchauffement, il y aura toujours plus d'incendies. Or, on sait qu'ils sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. Donc, elle a
raison de s'inquiéter. Les incendies réchauffent eux-mêmes
ben
l'atmosphère.
Oui, ouais. Ben oui, et ils ne sont pas calculés dans la production de gaz à effet de serre. Pourtant, c'est énormément de carbone, de soufre, de toutes sortes d'affaires de même. Et donc, tout ça est extrêmement inquiétant. Alors, elle apprend ça au pied de la lettre, elle a bien raison. Mais bon, il faut quand même remarquer que ça a changé, le ton a changé. Avant, tu avais des COP. La COP, c'est comme la COP 26, là, ça veut juste dire conférence des pays. Hein, c'est pas un code secret. Là.
Conférence des partis, là. Mais...
Oui, c'est ça. Et la COP 26, il y a un ton qui a changé. Là. Par exemple, tu as des pays qui arrivent avec des résultats. Nous, on s'en rend pas trop compte aussi au Québec et au Canada parce qu'on est dans les plus mauvais au monde. Tu sais, je le dis souvent, puis les gens se disent « Ah, mais peut-être t'exagères. » Ben non. Quand tu regardes les chiffres, là, on est dans les derniers des derniers. Puis on a, tu sais, depuis 1990, on a réduit nos gaz à effet de serre seulement d'à peu près 5 %. Ben l'Europe, c'est 24 %. Juste pour comparer, là, l'Europe, c'est quand même pas, tu sais, c'est pas un pays sous-développé, là. Ce sont des pays avec des industries extrêmement puissantes qui produisent une partie des voitures de la planète, puis une partie de l'énergie, puis des biens manufacturiers de la planète. Là, ils ont réduit quand même de 25 %. Donc, c'est possible. Et nous-mêmes, si on regarde depuis 1990, c'est 5 %, mais si on regarde dans les dernières années, on a augmenté. Donc, on avait réduit beaucoup dans les années 90, puis là, récemment, on a augmenté. Mais quand tu regardes comment ils y sont arrivés, les autres, comment ils ont fait pour avoir ces résultats-là, bien, c'est des résultats impressionnants. Par exemple, la Norvège, élimination des voitures à essence en 2022. Pas loin, ça.
Oui.
Ils vont y arriver. Tu sais, notre ministre de l'Environnement, grand fanal, dit que on peut pas y arriver
avant...
Quelqu'un a parlé à côté de moi, c'est pas moi, dit qu'on peut pas y arriver avant 2035. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un grand fanal. C'est parce que quand tu dis que c'est impossible d'y arriver avant... Puis là, tu as le pays d'en face qui arrive en 2022. Explique-nous. Explique-nous c'est quoi la différence. La Suède, par exemple. La Suède, réduction de 63% des gaz à effet de serre par rapport à 1990, avec l'obligation d'ici 2030, avec obligation des résultats mesurés tous les ans. Et donc, le gouvernement s'y tient. Là. Il y a une feuille de route, puis ils ont des politiques. Puis tu as vu que le tribunal administratif de Paris a poursuivi l'État français parce qu'il n'a pas atteint ses cibles de réduction. Il se passe des choses. Tu sais, on pourrait dire « Ah ouais, mais ça, tu sais, les Moses de Norvégiens puis des Suédois, c'est tout le temps les mêmes, sont trop bons, on ne veut rien savoir d'eux autres. » C'est vrai. Mais l'Inde, là, a installé... est en train d'essayer de modifier, de transformer son parc de production d'énergie. L'énergie est essentiellement du charbon puis du pétrole. Essaie de le changer pour que ce soit des énergies nouvelles et renouvelables. Sais-tu combien on a installé d'énergies nouvelles et renouvelables en Inde?
Combien?
134 gigawattheures. Tout le parc d'Hydro-Québec, c'est 36 gigawattheures. Le parc hydraulique, les barrages, là, c'est 36. Eux, en énergie nouvelle et renouvelable, et aussi, il faut dire, le nucléaire est inclus là-dedans, mais c'est du petit nucléaire, 134 gigawattheures, et ils visent 522 gigawattheures en 2030. Donc, il se passe des choses dans le monde. Il s'en passe.
Mais, écoute, penses-tu qu'il y a une solution technologique qui va arriver pour capter le carbone un jour?
Mais Non, parce que, sans doute que non, parce que c'est, ça existe, c'est, mais ça coûte très, très, très cher pour capter des kilos de carbone. T'sais. Donc, avant d'arriver à des technologies qui vont capter beaucoup, beaucoup, beaucoup de carbone, à moins, sans nécessiter, si tu veux, des gaz à effet de serre eux-mêmes pour les construire, ces machines-là, parce que tu construis des machines, ça dépense de l'énergie, ça, la construction de machines, d'acier, etc. Et après ça, il y a des parties mobiles là-dedans, il y a des moteurs, etc. Ben, des moteurs électriques. Mais tout ça nécessite de construire quelque chose. Alors, tu devrais construire des champs complets. Là. Quand je parle de champs complets, de kilomètres carrés pour aller capter du acide carbone, tu es aussi bien de ne pas le produire, le carbone. Parce qu'une machine, là, que ce serait juste comme un gros con en carton que tu mettrais dans le ciel, oui, qui capterait le carton, ouais, ça marcherait, mais ça marche pas comme ça. ça prend du métal, ça prend des installations, ça prend du béton au sol pour le fixer. À ce moment-là, le mieux, c'est plutôt d'essayer de ne pas le produire. Et donc, toute la question est là, tu sais, comment on va faire pour ne pas le produire? Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les producteurs de pétrole, ils veulent pas. Ils veulent pas. On leur a demandé, puis ils veulent pas. Il y a une étude qui a été faite par une ONG allemande qui s'appelle Urgewald, estimé, en lisant les plans des entreprises de pétrole à travers le monde, que 95% des producteurs de pétrole et de gaz à travers le monde explorent des nouvelles possibilités de forage ou de développement des hydrocarbures. Puis dans 50%, dans la moitié des cas de ces 95% de producteurs de pétrole, c'est du pétrole et du gaz vraiment polluants, comme des gaz de schiste, mm-hmm. des sables bitumineux, des forages en Arctique ou en eau très profonde. Fait que, tu sais, c'est pas comme si tout le monde collaborait, là. Et la seule façon d'arriver à contrôler ces gens-là, c'est retirer des capitaux qui leur permettent de faire ces forages-là et ces explorations-là. Et donc, il y a des mouvements à travers le monde pour faire ça. Il y a des mouvements qui leur retirent les capitaux. Notre propre caisse de dépôt et de placement a décidé de ne plus investir dans le pétrole, dans le forage et l'exploration pétrolière, mais sauf les pipelines, par contre, incessamment. Et il y a des groupes à travers le monde qui font ça, qui ont dit, non, c'est fini. Et il y a des gros, gros, gros projets de GNL qui ont été abandonnés à cause de ça. Il y a le Fonds souverain de Norvège qui a retiré ses billes des sables bitumineux. Il se passe des choses à assez grande échelle. Et on peut penser que les producteurs de pétrole qui poussent tellement, tellement pour produire, continuent de produire, vont se faire ralentir beaucoup dans les 10 prochaines années, puis écrasé dans les 10 suivantes. Et sachant ça, les banques ne mettront pas leur argent dedans.
Merci, Luc. Excellente fin de semaine en Bixi.
Merci.
Salut.
Merci, bye.
17h24.